300 millions d'euros. C'est la somme colossale qui vient d'être mise sur la table pour transformer l'agriculture africaine et l'entrepreneuriat féminin.
Ouais, un chiffre vertigineux, c'est sûr.
Exactement. Mais derrière ce chiffre se cache une réalité mathématique assez têtue. Parce que, historiquement, pour chaque tranche de 100 euros de financement annoncée en grande pompe pour le développement économique, ben, seule une infime fraction arrive réellement à franchir le dédale bureaucratique.
C'est ça, ça n'atteint presque jamais les communautés locales à la base.
Voilà, donc, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. L'objectif de notre exploration documentaire aujourd'hui, c'est de prendre une pile de documents, des articles, des discours, des analyses critiques, et d'en extraire les véritables mécanismes.
Parce qu'il faut dépasser l'éblouissement du communiqué de presse, quoi.
Exactement. Il s'agit de comprendre comment les choses fonctionnent concrètement sur le terrain.
Et le dossier qui mobilise toute l'attention cette semaine, ça tourne autour du Africa Forward Summit 2026.
Ah oui, le fameux sommet de Nairobi.
Ouais, qui s'est tenu les 11 et 12 mai derniers. Et l'annonce qui a vraiment monopolisé les gros titres, c'est la signature d'un partenariat stratégique énorme entre le groupe bancaire panafricain Ecobank et Proparco.
Juste pour clarifier pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'acronyme, Proparco, c'est la filiale de l'Agence française de développement, l'AFD, qui est dédiée au secteur privé dans les pays en développement.
Tout à fait, et donc l'enveloppe annoncée est de 300 millions d'euros sur 3 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est que le véritable enjeu n'est pas le montant, mais la transformation tangible ou son absence pour les femmes entrepreneurs.
Et pour décortiquer tout ça, on s'appuie aujourd'hui sur un document très dense. C'est un éditorial percutant rédigé par Félicité Amanier-Ra-Vincent. Elle est journaliste indépendante et la fondatrice de Radio Tam Tam Africa.
Un article qui passe cette annonce au crible avec un regard, disons, très critique.
Très critique, oui. Et c'est crucial de préciser dès maintenant que notre mission ici n'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour juger de la moralité de ces initiatives, ni soutenir un bord politique ou un autre.
Non, bien sûr. L'idée, c'est d'exposer fidèlement les points de vue de l'éditorialiste.
Voilà. On veut restituer de manière impartiale les arguments pour comprendre les débats actuels sur la souveraineté économique africaine.
C'est un cadre d'analyse indispensable. Et avant de comprendre où va l'argent, il faut analyser la cible. Pourquoi l'agriculture a été ciblée avec une telle force?
D'accord. Décortiquons tout ça.
Bah, le partenariat vise à soutenir les PME agricoles à travers 33 pays. Et la donnée de base dans nos sources, c'est que l'agriculture représente près de 20% du PIB du continent africain.
Ce qui est énorme. Mais 20% du PIB, c'est une stat macroéconomique qui existe depuis longtemps. Pourquoi cette annonce arrive-t-elle spécifiquement maintenant, en 2026?
C'est là que le contexte mondial entre en jeu. La source souligne que ce n'est pas juste un élan philanthropique soudain. Les institutions réagissent à des pressions très actuelles.
Genre la crise des intrants agricoles.
Exactement. Avec la hausse foudroyante des prix de l'énergie et des engrais, liée aux tensions géopolitiques et aux chaînes logistiques mondiales qui sont complètement perturbées.
Ouais, les modèles hyper-intensifs du Nord sont sous pression.
C'est ça. Du coup, les institutions financières internationales opèrent un pivot. Elles veulent repositionner l'Afrique, non plus seulement pour la sécurité alimentaire locale, mais comme un amortisseur pour les marchés globaux.
D'accord. C'est fou. C'est comme si, face à une tempête parfaite sur le marché mondial de l'alimentation, ces institutions tentaient de transformer l'Afrique en un gigantesque canot de sauvetage agricole.
Une très bonne image, ouais.
Mais un canot qui a besoin de sérieuses réparations, tu vois. Et ça soulève une vraie question. Est-ce que cette stratégie vise la survie du continent africain ou est-ce que c'est pour protéger les intérêts de la production mondiale?
L'auteur de l'article pointe exactement cette dualité. Les institutions parlent de résilience locale, mais en réalité, la sécurisation des flux mondiaux pèse lourd dans la balance.
Ok, donc l'agriculture est la cible principale. Mais comment cet accord intègre-t-il spécifiquement les femmes, vu qu'elles sont au cœur de l'annonce?
Eh bien, Ecobank a ce programme baptisé Élever.
Ah oui, lancé en 2020.
C'est ça. Et selon les chiffres officiels, ils auraient déjà soutenu plus de 84 000 entreprises dans plus de 30 pays.
C'est un sacré réseau de base.
Oui, et la nouvelle promesse de Proparco vient se greffer là-dessus. Il propose une formation intensive de 12 mois.
Une formation axée sur quoi exactement?
Sur la gestion, la finance, le développement stratégique et le leadership. Et c'est justifié par de grands discours. Jeremy Awori, le DG d'Ecobank, parle de financer l'alimentation et la création de valeurs locales.
Et j'ai vu que Françoise Lombard de Proparco dit que l'agriculture est carrément au cœur de l'avenir de l'Afrique.
Voilà. Le discours officiel est très ambitieux.
Mais attends, C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un contraste énorme dans les chiffres de la source. On parle de 300 millions d'euros pour 33 pays, mais cette fameuse formation intensive, elle ne cible que 400 entrepreneurs.
Oui, 400 femmes.
Seulement 400 femmes, réparties dans 3 pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Kenya. C'est pas un peu paradoxal? Est-ce que ces 400 femmes sont censées être l'arbre qui cache la forêt de l'invisibilité que pointe la journaliste?
C'est la grande critique de l'éditorial, oui. Du point de vue des institutions, la logique, c'est de faire un projet pilote très intense pour créer des championnes régionales.
Des modèles de réussite, en gros.
Voilà. Mais Félicité Amanedia Revisens voit ce décalage d'échelle comme le signe d'un dysfonctionnement. C'est une vitrine très bien éclairée pour générer des bons communiqués de presse.
Ce qui nous mène directement au cœur de la critique de l'auteur, en fait. L'absence d'impact visible à grande échelle.
Exactement. Elle pose une question brutale. Combien d'entreprises ont réellement changé d'échelle suite à ces grandes annonces?
Bah oui, où sont les emplois durables? Où sont les succès historiques continentales?
Si l'on relie cela au contexte global, on comprend pourquoi annoncer des millions ne suffit pas. Il y a des barrières systémiques massives sur le terrain.
Du genre?
L'accès limité au crédit, déjà. Et quand il y a accès, les taux d'intérêt sont souvent punitifs.
Ouais, ça étouffe la rentabilité avant même de commencer.
C'est clair. Et le plus gros blocage détaillé dans la source, ce sont les garanties bancaires exigées, qui sont quasi impossibles à fournir pour les femmes. Plus leur faible intégration dans les chaînes de valeur internationales.
C'est fou. C'est un peu comme si on avait une averse torrentielle, les fameux 300 millions d'euros, qui tombent sur un sol complètement sec et durci par ces barrières systémiques.
Une terre durcie par les taux d'intérêt et les garanties bancaires, ouais.
Voilà. Si la terre est trop dure, l'eau ruisselle et s'évapore sans jamais atteindre les racines des petites entreprises féminines. Comment les institutions justifient-ils ce problème de perméabilité, finalement?
Ben, le système bancaire classique évalue le risque selon des normes importées. Pour obtenir un prêt, il faut un collatéral tangible, généralement un titre foncier.
Prouver qu'on est propriétaire de la terre.
Exactement. Sauf que dans beaucoup de régions agricoles, c'est régi par le droit coutumier. Les femmes cultivent, gèrent les semences, récoltent.
Mais ce sont les hommes qui possèdent la terre.
C'est ça. Donc, quand une femme va à la banque pour financer des équipements, l'algorithme de risque voit une absence de garantie. Et le dossier est rejeté.
Ou accepté avec des taux délirants. C'est un cercle vicieux.
Totalement. C'est pour ça que la journaliste dit que le système actuel, avec ses grandes annonces et sa faible pénétration, est défaillant.
Du coup, que réclament les voix africaines aujourd'hui pour redresser la barre? C'est quoi la solution selon l'éditorial?
Les exigences sont claires pour sortir de cette dépendance aux importations. D'abord, financer directement les producteurs locaux.
Sans passer par une myriade d'intermédiaires.
Voilà. Ensuite, industrialiser les filières sur place, soutenir les coopératives féminines et créer de véritables champions africains de l'agro-industrie.
D'accord. Mais ça soulève la question de la mesure, non?
Cela soulève une question cruciale, oui. Le développement durable ne peut plus se contenter de simples communiqués de presse. L'article détaille 4 piliers essentiels.
Vas-y, je t'écoute.
Le premier, c'est la transparence totale sur les fonds. Ensuite, une évaluation stricte des impacts réels.
Donc on arrête de compter juste le nombre de prêts accordés.
C'est ça. On mesure la transformation industrielle. Est-ce qu'une coopérative est passée de la récolte de fèves brutes à l'exportation de beurre de cacao, par exemple?
Ah, ça change tout. C'est beaucoup plus concret.
Le troisième pilier, c'est la valorisation systémique des réussites locales. Le succès d'une coopérative doit servir de garantie pour les autres, pour abaisser le risque perçu par les banques.
Créer une sorte de jurisprudence financière de la réussite.
Exactement. Et le dernier pilier, c'est un accès durable et régulé aux leviers économiques pour les femmes, indépendamment des agendas politiques des bailleurs du Nord.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume la pensée de l'auteur, il ne s'agit plus de faire de la charité financière.
Non, plus du tout.
C'est une demande de partenariat économique réel. Le succès ne doit plus se mesurer à l'argent injecté, mais à la création de valeur et à la transformation industrielle locale.
C'est le cœur du message. Ce sommet de Nairobi a mis 300 millions sur la table, c'est indéniable. Mais comme le souligne l'article, cet argent n'aura de valeur que s'il brise les barrières historiques du crédit.
Pour transformer les agricultrices en leaders industriels visibles et durables.
Voilà.
Ce qui m'amène à une réflexion finale assez provocatrice, mais qui découle directement de tout ce qu'on vient de voir. Puisque le plus grand obstacle, c'est cette incapacité à fournir des garanties bancaires traditionnelles, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter d'essayer de faire entrer les femmes entrepreneurs africaines dans ce moule bancaire classique?
C'est une excellente question. Forcer un système basé sur le titre foncier individuel dans une culture de droit coutumier collectif, c'est voué à l'échec.
Et si la véritable révolution, c'était de concevoir un système de crédit entièrement nouveau, un modèle qui ne serait pas basé sur le capital passé ou les actes de propriété, mais, je sais pas, sur les réseaux de confiance communautaire.
Ou sur l'analyse prédictive des rendements futurs d'une coopérative.
Exactement. Évaluer la capacité collective à produire, plutôt que la possession individuelle de la terre. Ce serait un changement de paradigme radical. Et on va laisser cette question en suspens parce que ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'avenir de la finance globale.
Absolument.
Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.